les béatitudes sont en quelque sorte une des pierres d'angle de la foi chrétienne, elles n'en constituent pas moins un texte vieux de quelque 2000 ans et naturellement susceptible de poser de nombreuses interrogations. Compte tenu donc que le sermon sur la montagne occupe une place prépondérante dans l'enseignement chrétien, nous avons cru qu'il constitue un point de départ sûr pour une compréhension renouvelée et contemporaine de notre foi. Monsieur Truchon tentera de répondre à nos interrogations et nous aidera à démystifier certains aspects des béatitudes. Il nous expliquera enfin comment les préceptes qui s'en dégagent sont susceptibles d'alimenter et de soutenir notre foi chrétienne en cette fin de XXe siècle marquée par tant de turbulences et d'incertitudes. Monsieur Truchon, au cours des prochaines semaines, nous allons parler des grands thèmes qui ressortent des béatitudes. Est-ce que la foi est indispensable pour comprendre les béatitudes, ou bien est-ce qu'elle ne s'adresse pas à tout le monde, surtout ceux qui n'ont pas la foi ou qui croient ne pas l'avoir et qui s'interrogent? Par où est-ce qu'il faut commencer vraiment?
Oui, c'est une grosse question que le commencement. On peut commencer de diverses façons. Et d'ailleurs, je me demande tout le temps, quand je parle des béatitudes, par où on va commencer. Est-ce qu'on commence par l'expérience? Est-ce qu'on commence par le texte? Est-ce qu'on commence par l'interprétation? On peut commencer de toutes sortes de façons. Est-ce que la foi est nécessaire pour comprendre les béatitudes? Cette question-là m'a un peu frappé au départ. Et la foi, à part de ça, aujourd'hui, il y en a, bien sûr, mais on se pose beaucoup de questions. Alors, je crois que pour y aller d'une façon plus directe encore par rapport à cette question de saisie ou de compréhension des béatitudes, on pourrait dire que les béatitudes ou l'enseignement des béatitudes ou les textes des béatitudes sont pour les gens qui sont déjà assez heureux, on pourrait dire ça, ça ne serait pas faux. Mais je crois que si on veut être encore plus direct, il y a un psaume qui dit explicitement que elles sont précisément pour les désespérés. Autrement dit, elles frappent surtout les gens qui sont dans une recherche extrême du sens de la vie, du bonheur. Et là-dessus, déjà, le Deutéronome 30 nous indique très bien le sens général des béatitudes au niveau non seulement d'une sagesse réflexive, mais d'une mise en situation pour nous poser non seulement les questions fondamentales, mais d'y trouver des pistes de recherche. Parce qu'au fond, les béatitudes sont des chemins de bonheur. Le mot araméen que Jésus a employé pour parler des béatitudes est le mot acherei, c'est-à-dire chemin. Alors, c'est comme si les béatitudes étaient 8 puissances fondamentales que l'homme a et qui attendent et qui cherchent et qui désirent et qui font les expériences pour trouver leur objet ou, si vous voulez, leur fonctionnement. Alors, dans les béatitudes, il y a un chemin de foi, mais il y a aussi un chemin pour obtenir la foi ou recevoir la foi. Il y a un chemin pour ceux qui l'ont, il y a un chemin pour ceux qui ne l'ont pas encore. Autrement dit, ça parle à tout le monde. Et ce texte-là, qui est le radicalisme même de l'Évangile, s'adresse à chaque homme sur cette terre. Et il ne s'adresse pas nécessairement ni aux religieux qui ont fait des vœux. Souvent, on pensait que les béatitudes étaient pour des gens qui avaient fait des vœux, des chemins privilégiés pour rencontrer Dieu, pour vivre la chrétienté ou le christianisme ou la foi chrétienne. Mais en réalité, on a vite découvert que ça s'adresse à chacun. Et chacun, en fait, vit un radicalisme d'une façon ou d'une autre.
Alors donc, si ça s'adresse aux désespérés, comme vous dites, ça comprend très facilement les gens dont la question, dont la foi, dis-je, est remise en question.
Je le crois parce que la foi, c'est toujours remis en question. Autrement dit, une foi qui est reposante et reposée, je ne sais pas si ça existe dans la Bible. Le peuple juif croyait en un seul Dieu, bien sûr, mais il en doutait autant. C'est-à-dire que face aux épreuves, face aux événements qui lui arrivaient, c'était pas toujours du gâteau ou du tout cuit que la foi en Dieu. Autrement dit, la foi est une aventure, bien sûr, mais ce n'est pas un rêve, c'est un combat. Ce qui manque peut-être aujourd'hui pour lancer un certain diagnostic hypothétique, c'est de nourrir sa foi. Il faut nourrir notre foi chaque jour.
Alors, vous dites qu'elle n'est jamais acquise, la foi, qu'elle n'est jamais entièrement possédée.
C'est un processus plutôt qu'un bien qu'on aurait dans son portefeuille ou dans son curriculum vitae. Même si on est baptisé, c'est un peu comme le mariage. On se marie, on part avec la fleur puis le Kodak, mais c'est un billet aller-retour.
Pardonnez-moi, quand vous dites que la foi, si on ne l'a pas, on peut tout simplement la demander à Dieu en espérant qu'il va nous la donner. Alors, il ne nous la donne pas entièrement, il va nous procurer les moyens de cheminer dans sa direction.
Si on relit les synoptiques, on voit que les disciples doutaient toujours, et souvent en tout cas, et Jésus leur disait « gens de peu de foi ». Pourtant, c'était ses disciples. Alors, la foi, est-ce que Dieu va nous la demander? Il est dit par Jésus lui-même que si on demande l'Esprit-Saint, le Père ne peut pas nous le refuser. Évidemment, si on demande l'Esprit-Saint et qu'on reçoit l'Esprit-Saint, c'est-à-dire s'il devient actif, plus actif en nous, et si nous consentons plus à ses appels et à ses prises de conscience, aux prises de conscience qu'il provoque en nous, la foi, c'est un processus vital.
Monsieur Truchon, encore à votre avis, les béatitudes, est-ce que vous croyez qu'elles sont en mesure de répondre aux grandes questions dans leur ensemble? C'est certain que nous allons aborder les béatitudes de façon plus spécifique un peu plus tard, mais est-ce que les béatitudes peuvent répondre aux grandes questions, comme par exemple l'existence de Dieu, la parole de Dieu, sa véracité? Est-ce que Dieu nous parle vraiment aujourd'hui? Les prophéties, est-ce que ça existe? Est-ce que les béatitudes nous éclairent là-dessus?
Absolument. Les béatitudes sont comme la charte du Nouveau Testament. Autrement dit, dans l'Ancien Testament, la charte d'Israël, c'était les 10 commandements. On a vécu beaucoup des 10 commandements, mais maintenant, c'est comme si dans l'Église ou dans notre vie quotidienne, les chrétiens avaient besoin davantage de découvrir une charte qui est peut-être plus exigeante, mais qui est plus, je dirais, quasiment spirituelle, c'est-à-dire plus axée sur la dimension fondamentale du Nouveau Testament. Or, les béatitudes sont justement cette nouvelle charte de l'Église, et tous les exégètes s'accordent là-dessus, il faut en profiter, que les béatitudes, c'est la charte du Nouveau Testament. Autrement dit, c'est comme l'ouverture globale et précise du Christ de tout son plan, de tout son dessein. Si elles, évidemment qu'elles sont faites pour répondre aux questions fondamentales. Quand nous verrons le sens des béatitudes selon Luc, en 6:20-26, ou en Luc, dans Matthieu 5:3-12, et aussi dans tout le discours qui suit chez Matthieu de 5-7, nous verrons qu'il n'est question là que des plus grandes questions de la vie.
Autrement dit, c'est une façon simplifiée de nous aider à les comprendre, les grandes questions.
Non seulement nous aider à susciter la puissance de trouver notre réponse personnelle, et même collective. Parce que le lieu de connaissance des béatitudes, ce n'est pas rien que notre recherche personnelle, c'est d'être relié aussi à un groupe de personnes qui sont aussi en recherche, qu'on peut appeler l'Église. Et l'Esprit-Saint, moi j'en profite ici pour dire que je suis un employé de l'Esprit-Saint tant que je peux, et je lui demande justement à maintenant de ne dire que ce qu'il veut et de ne pas dire ce qu'il ne veut pas. Autrement dit, de provoquer en chacun des auditeurs une révélation qui lui est, qui le concerne, une révélation qui concerne la personne qui écoute, et d'en faire un pas de cheminement vers la vie et vers le bonheur. Notre religion, c'est fondamentalement un bonheur.
C'est bien gentil, mais moi, je trouve qu'au premier coup d'œil, le serment sur la montagne, il peut paraître un petit peu détaché de nos préoccupations quotidiennes. On ne peut pas nier que notre contexte est très différent de celui des apôtres et des premiers disciples. Je veux dire que si la tradition chrétienne en a fait un fondement, une pierre d'angle de la foi, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait en réviser l'éclairage, apprendre une nouvelle lecture, disons, plus contemporaine, quoi?
Absolument. Il faudra, à un moment donné, parler de l'inspiration et de la prophétie, c'est-à-dire la lecture aujourd'hui de l'Écriture. On ne met pas l'Évangile à date, c'est l'Évangile qui nous met à date. Donc, l'Évangile, c'est écrit pour tous les temps, tous les contextes, toutes les cultures, pour les personnes de tous sexes et de tous âges.
Ben, si vous permettez, moi je dirais qu'au premier coup d'œil, encore une fois, c'est pas évident.
C'est pas évident, c'est pour ça que vous en parlez.
D'accord. Le serment sur la montagne, vous l'avez précisé tout à l'heure, a été recensé par deux évangélistes. Or, dans votre enseignement, vous avez semblé donner la préférence, jusqu'ici du moins, à la recension de Matthieu plutôt qu'à celle de Luc. Vous pouvez vous expliquer là-dessus?
Oui, mais il ne faut pas négliger celle de Luc. Parce que celle de Luc est première et déterminante. On le voit surtout dans les œuvres de Jacques Dupont. C'est là, moi, c'est par Luc et par Jacques Dupont, qui est un bénédictin exégète spécialiste des Béatitudes, c'est là que j'ai découvert les Béatitudes, c'est surtout dans celle de Luc. Parce que c'est comme l'incarnation première des Béatitudes. Donc, il faudra, à un moment donné, se parler du sens des Béatitudes selon Luc. Et aller plus loin, d'une autre manière, avec Matthieu. Quand je dis plus loin, c'est non, d'une manière différente. Parce que les deux se complètent. Alors, il faut... Moi, je privilégie en un certain sens Matthieu, mais à condition de bien comprendre d'abord Luc.
Alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial, Luc, si c'est le premier?
Bon, pour ne pas faire peut-être déjà maintenant une introduction particulière aux Béatitudes, puisque l'introduction générale, je ne sais pas si elle est terminée, parce que je voulais qu'on fasse une introduction générale à tout ça.
Allons-y.
Et ensuite, une introduction particulière. Mais quand même, pour ne pas négliger votre question, pour ne pas la laisser tomber dans 15 jours, 3 semaines, je dirais que les Béatitudes, selon Luc, représentent plutôt le charisme ou la vocation de Moïse. C'est-à-dire de libérer un peuple socialement, au niveau du système. Quand nous lirons les Béatitudes selon Luc, nous verrons qu'elles s'adressent aux personnes avec un « vous » au pluriel. Donc, ça s'adresse à des personnes dans un système, dans des conditions sociales. Comme si, par exemple, en naissant quelque part, déjà un peu, toute notre vie est un peu marquée à cause de l'endroit où on vient au monde et ensuite des possibilités peut-être qu'on aura à cause du système. Donc, les Béatitudes de Luc nous permettent de guérir le système, de travailler à la sortie de la misère des gens au niveau économique, de travailler à sortir de la misère des gens au niveau corporel, des maladies physiques. Donc, le premier, le travailler pour que les biens de consommation et de production soient vraiment en progression constante, parce que l'homme en a besoin. Deuxièmement, les sciences de la santé, tous ceux qui sont au service de la santé, sont des chemins de bonheur. Tout ça, ce sont des chemins de bonheur. Travailler à produire des biens de consommation qui nous sont nécessaires, c'est un chemin de bonheur. Travailler aux soins de la santé, à guérir les corps, c'est un autre chemin de bonheur. Travailler à l'éducation, à libérer les gens des tabous, des fétichismes, des charlatanismes, des mauvaises orientations spirituelles ou même religieuses, c'est aussi un chemin de bonheur. Et finalement, libérer les gens du désespoir, c'est la suprême tâche, selon Luc.
D'accord. Je reviens, si vous permettez, à l'expression que vous employez, qui est l'actualisation des béatitudes. Oui. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça signifie au juste. Est-ce que c'est vraiment possible d'attribuer aux béatitudes une signification différente de celle qu'elles avaient au temps des disciples? Quand on parle des béatitudes, est-ce qu'on parle de bonheur? C'est quoi le bonheur?
Bon, deux questions qui... Peut-être plus, mais au moins deux que je vois, c'est qu'on revient au problème ou au mystère de l'interprétation. C'est que, prenez par exemple dans l'Évangile, on parle de pharisiens. Évidemment, si vous promenez sur quatre bourgeois, vous ne verrez pas de pharisiens. Ça n'existe plus, cette classe sociale-là. Mais il y en a qui ont une arme de pharisiens. Donc, dans l'Écriture sainte a une capacité de parler dans un contexte culturel donné à des gens. Et ensuite, elle a une capacité de rejoindre des gens dans une autre culture. Comment le fait-elle? En passant par la culture des gens à qui elle s'adresse, mais en dépassant cette culture pour s'adresser à l'attitude de la conscience spirituelle des gens. Exemple, sur quatre bourgeois, vous avez des pharisiens spirituels qui ont la mentalité des pharisiens. On appelle les prêtres pasteurs. Il n'y a pas de brebis à quatre bourgeois. Pourtant, il y a des prêtres qui se laissent appeler pasteurs. C'est au sens spirituel. Alors, le sens spirituel, lui, est transhistorique et transculturel.
Ça répond, je pense, à une grande question. Merci beaucoup. Alors, ce que vous dites, c'est que les béatitudes, c'est un petit peu comme le mode d'emploi pour vivre en bon chrétien aujourd'hui, une espèce de description condensée du chrétien idéal.
C'est une manière d'écouter Dieu dans notre fort intérieur et dans notre société, pour nos besoins fondamentaux et nos crises, et aussi pour les dépasser.
Si vous dites que c'est une façon d'écouter Dieu, j'en déduis que Dieu nous parle.
Exact.
Encore faut-il l'entendre.
Oui, il y a des conditions, pas du côté de Dieu, parce que la grâce est sans condition. Quand Dieu nous offre une grâce, il ne demande pas de conditions. La grâce est sans préalable, sans prérequis.
Mais la grâce, comment est-ce qu'on sait qu'on l'a? Est-ce qu'on a des symptômes? Est-ce que ça frappe à notre porte? Est-ce qu'on se réveille différent, transformé un bon matin?
Voilà, pas un bon matin, mais parce que le cheval de Saint-Paul, on a trop retenu la tomberie fatale, là, au final. Là, ça a pris plus de temps que ça à tomber, le cheval. Autrement dit, quand Étienne se mourait en étant lapidé et que Saint-Paul, ou Paul dans le temps, Saül, tenait ses vêtements, il commençait déjà à recevoir le rayonnement de la grâce d'Étienne. Alors une conversion, c'est pas comme le café instantané, là, premièrement. C'est un processus et très long, une conversion. Seulement qu'à un moment donné, c'est comme une fleur qui rouvre, t'as voulu ouvrir. Là, elle rouvre plus vite. Mais avant, il y a eu une germination très lente. Maintenant, une autre chose que je voulais dire, c'est que là, je ne m'en rappelle pas trop avec ta question. Je ne sais pas trop la question que tu avais posée, là.
Moi, je pense que je l'ai un petit peu oublié aussi.
Oui.
Je peux quand même revenir sur un autre point. Vous avez précisé quelque part que c'est la vie vécue par le Christ qui est à l'origine de ses paroles. Il faut comprendre alors que les béatitudes sont fondées sur une véritable expérience de vie, de souffrance, de persécution, et que ce ne sont pas seulement des principes à l'état pur. Alors, est-ce que, de la même façon, chaque chrétien peut se les approprier en rapport direct avec sa propre expérience? Est-ce qu'il est possible de personnaliser les béatitudes, d'y trouver une interprétation qui peut varier selon sa personnalité, sa culture, son mode de vie?
Oui. On revient encore à l'interprétation qui... Il y a une interprétation catholique de la Bible, il y a une interprétation paroissiale de la Bible. Quand vous allez recevoir une homélie ou entendre une homélie dans une paroisse, vous allez changer de paroisse, ça peut être un peu différent.
D'accord.
Alors, vous voyez que la parole de Dieu se personnalise et finalement arrive à vous. Il faut quand même... Le vrai chrétien, c'est quelqu'un qui, dans la Bible, est capable de mettre son nom. Ça devient son histoire personnelle.
Mais qu'est-ce qui dit que moi, je ne me retrouverai pas un bonjour avec une version contradictoire avec celle du voisin?
Voilà. Alors, comme vous et moi avons un visage, deux yeux, une bouche, des oreilles et un nez, et pourtant, nous ne sommes pas semblables, il y a des choses semblables dans chaque homme. C'est ce qui fait qu'on peut se parler. Mais chacun est unique dans sa façon d'être. Alors, la parole de Dieu est ainsi. Elle peut s'adresser à un groupe, mais elle va s'adresser très personnellement à quelqu'un. Et le groupe en lui-même n'est là que pour quelqu'un.
Et c'est la partie la plus intéressante, je pense. C'est là qu'on aime, ce qu'on aime croire, que Dieu s'adresse à soi personnellement et qu'on est en mesure de réagir selon ses propres besoins.
Et pourquoi tout ça? Pour découvrir qu'il m'aime moi personnellement.
Et qu'il me destine au bonheur.
Et qu'il me destine au bonheur et qu'il est capable de m'y conduire.
Malgré le péché.
Non seulement malgré, utilisant le mal et le péché pour que j'aille encore plus loin. Parce que c'est là qu'on rejoint la foi. C'est que la foi fait des obstacles et des échecs, des étapes. Pour Dieu, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des étapes. C'est ce que les prophètes ont constamment dit dans tout l'Ancien Testament. C'est quand on manque de foi que notre échec demeure un échec. Et même le savant est comme ça. Parce que quand il se trompe, il vient d'apprendre comment ce qu'il ne faut pas faire. C'est déjà quelque chose. Mais en plus, en étudiant son échec, il va peut-être découvrir la solution. Alors, la foi, c'est la foi qui est la source du bonheur. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'une vie spirituelle commence dans n'importe quelle religion? Quand est-ce peut-on parler de spiritualité dans n'importe quelle religion? C'est quand une personne décide d'utiliser même ces choses négatives pour progresser. Un peu comme le joueur de golf qui voit un petit bouton qui l'empêche d'aller la balle dans le trou, il faut qu'il se perfectionne pour qu'il y aille pareil. Les obstacles deviennent des instructeurs, nos ennemis deviennent nos professeurs. C'est l'acceptation totale. Là commence vraiment la vie spirituelle. Quand quelqu'un dit « moi, je ne me laisse pas abattre, ce qui m'arrive de misère va m'aider à grandir ».
Alors, comme on dit, l'expérience est le fruit de nos erreurs. De la même façon, notre expérience spirituelle, nos erreurs, sont précisément va nous mener à une meilleure compréhension de notre foi.
Absolument. Comme la Bible, pour moi, c'est un livre de pédagogie, mais divine. Alors, prenez un enfant, prenez une mère qui veut éduquer son enfant. La première journée, c'est qu'il fait dans le salon. Hein? C'est peut-être vulgaire ce que je vais dire, mais c'est réel. Puis là, elle va lui dire pendant un mois, « Ben, maman aimerait mieux que tu fasses ça quelque part. » Bon, mais elle sait très bien que c'est pas le lendemain qu'il va y aller aux toilettes. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste bonne, affectueuse, puis elle lui dit, « Bon, ben, maman aimerait ça que tu le fasses ça ailleurs, parce que dans le salon, c'est pas pratique. » Au bout du deuxième mois, mettons ce cours, au bout du deuxième mois, mettons qu'il y pense en même temps qu'il le fait. Ben, il y a un gros progrès. Avant, il pensait après, ou pas du tout. Là, il pense en même temps. C'est une bonne étape. Au bout de trois mois, il pense avant. Ça y est, la mère a réussi. Il faut prendre Dieu comme ça. C'est un pédagogue.
Alors, est-ce que je peux se transposer un petit peu? Moi, je pense que Jésus, quand il a parlé, il a fait donner les béatitudes, il savait très bien que ses prescriptions étaient relativement difficiles, bon. Peut-être impossibles.
Ouais. Là, j'ai retrouvé la question que vous m'aviez posée. Je vous remercie beaucoup. Parce que je tenais à en parler de ça. Les béatitudes, là, c'est d'abord le bonheur de Dieu, qui est infini et éternel. C'est le bonheur de Dieu. C'est pas d'avoir un gros char, c'est pas d'avoir réussi sa vie. C'est pas ça, les béatitudes. C'est d'abord le bonheur de Dieu lui-même.
Quel est-il, le bonheur de Dieu?
Ah, ça, on en reparlera beaucoup dans la première béatitude de Matthieu, « Car le royaume des cieux est à eux ». Quand on parlera du royaume de Dieu, on parlera de sa vie privée.
Ce que vous me dites, c'est
que Dieu, il y a une vie privée.
Ce que vous me dites, c'est que le bonheur de Dieu, c'est également le vôtre et c'est aussi le mien.
Ça devrait.